Pour votre info est présenté par Desjardins.
Cette semaine, est-ce que l'intelligence artificielle peut rendre les villes plus durables?
J'ai envie de vous donner des exemples concrets. Un premier qui parle souvent aux Montréalais, la prédiction pour la maintenance et le bon état des infrastructures.
C'est vrai qu'on en a bien besoin.
L'intelligence artificielle peut être utilisée pour mieux prédire, par exemple, des fuites dans des pipelines de gaz, des cracks, des anomalies.
On rencontre les auteurs d'une étude co-signée par MILA, l'Institut québécois d'intelligence artificielle, et le Programme des Nations Unies, ONU Habitat. Je m'appelle Laurent Therrien. Bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. Bon, l'avez-vous essayé, vous aussi, ChatGPT? C'est quand même la sensation du moment, hein? Une plateforme qui écrit pour vous, écrit peut-être même mieux que vous, avec une précision et une rapidité exceptionnelles, et qui est pour plusieurs la première manifestation concrète de ce que ça veut dire l'intelligence artificielle dans notre quotidien. Ça fait des années qu'on en parle, mais l'intelligence artificielle est peut-être à un point tournant. Et l'un des secteurs où elle peut avoir le plus d'impact, c'est dans les villes. Mais attention, parce que l'intelligence artificielle, ça peut aussi engendrer de nouveaux problèmes si on l'implante mal. C'est ce que soutient un nouveau livre blanc publié par le MILA, l'Institut d'intelligence artificielle basé à l'Université de Montréal, en collaboration avec le programme ONU Habitat des Nations Unies. Deux des auteurs de ce livre blanc sont avec nous. Shin Koseki, bonjour.
Bonjour.
Benjamin Prudhomme, bonjour.
Bonjour.
Shin, tu es en studio avec nous. On a convenu de se tutoyer avant l'émission. Tu es professeur à l'Université de Montréal. Tu es formé en architecture, en urbanisme et en sciences sociales computationnelles. Tu as étudié à Polytechnique de Lausanne en Suisse, à l'Université Oxford, à l'Université nationale de Singapour. Première question, puisqu'on va parler de ville aujourd'hui, laquelle a été la plus agréable à vivre?
Jusqu'à maintenant, je dois dire que c'est Montréal.
Ah ben oui,
oui,
évidemment.
Là où j'ai grandi.
Benjamin, on te reçoit sur Zoom. Tu es en direct de Paris, tu es avocat, tu es directeur exécutif du département IA pour l'humanité au MILA. Tu t'intéresses à la gouvernance inclusive de l'IA, à la crise climatique. Dans une autre vie, tu as été conseiller en droits humains pour la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland. Donc toi, tu partages ta vie entre Montréal et Paris. Même question, qu'est-ce que tu préfères?
C'est une question difficile. Honnêtement, Montréal, c'est une ville qui me ressemble plus.
Vous êtes originaux, ma foi, tous les deux. Alors, on va parler d'intelligence artificielle ensemble aujourd'hui. Votre rapport, essentiellement, nous dit « L'intelligence artificielle, c'est une opportunité pour les villes ». Commençons par ce premier segment-là. Alors, la question va être fort simple. En quoi est-ce que ça représente une opportunité pour les villes que de développer l'intelligence artificielle, Shin?
Alors, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'applications qui existent, évidemment, de l'intelligence artificielle dans le milieu urbain. Il y a beaucoup d'applications qui existent actuellement, mais il y a aussi beaucoup de potentiel de nouvelles applications qui sont en train d'être développées, en train d'être conçues à l'échelle internationale, que ce soit à Montréal, que ce soit ailleurs. Un grand chantier, je pense, évidemment, qui est peut-être le plus évident, celui dont on parle le plus quand on parle de planification urbaine, d'urbanisme, c'est évidemment tout ce qui est optimisation des systèmes urbains. Donc, optimisation des systèmes urbains, ça comprend la mobilité, la construction, la gestion des infrastructures, de l'eau, de l'électricité, l'ensemble, en fait, des réseaux qui composent la ville, qui composent, en fait, la dimension, on va dire, matérielle de la ville. Donc, ça, c'est un grand champ de l'application qui est peut-être le plus évident, mais aussi dans lequel il y a le plus actuellement d'investissement et de hype, on pourrait dire.
Si on parle d'application concrète, Benjamin, bon, vous vous intéressez notamment à la question de la crise climatique tous les deux. Donnez-nous des exemples, Benjamin, d'applications concrètes de l'intelligence artificielle pour venir avoir un impact concret sur le climat, par exemple.
Oui, bien alors, peut-être pour répondre précisément à la question dans le contexte urbain, là, dans le contexte du rapport où vraiment on a essayé de prendre un focus sur les compétences qui étaient celles du milieu urbain puis des villes. C'est sûr qu'on est moins sur des stratégies, par exemple, à grand déploiement, comme ce qu'on pourrait voir au niveau national ou même au niveau international quand on est à l'intersection, là, intelligence artificielle, et changement climatique ou biodiversité. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus, mais j'ai envie de vous donner des exemples concrets qu'on souligne dans le rapport parce que ce sont vraiment des exemples que les villes peuvent mettre en place. J'en ai plusieurs, mais un premier qui parle souvent aux Montréalais, en fait, c'est tout ce qui est la prédiction pour la maintenance et le bon état des infrastructures.
C'est vrai qu'on en a bien besoin.
Mais donc, l'intelligence artificielle peut être utilisée pour mieux prédire, par exemple, des fuites dans des pipelines de gaz, des cracks ou des anomalies dans des infrastructures, incluant des routes, des chemins de fer, etc. Et donc, on le fait de façon prédictive. Donc, ce que ça veut dire, c'est que d'une part, ça baisse les coûts parce qu'on est en mesure d'agir plus rapidement. Évidemment, ça augmente aussi la qualité des réseaux et aussi leur sécurité. D'autre façon très concrète, ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension des besoins en transport en commun dans une ville. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut vraiment ajuster le réseau du transport en commun pour mieux desservir les gens. On peut imaginer qu'à terme, ça veut dire une meilleure utilisation, une plus grande utilisation, qui est quand même un enjeu crucial dans la lutte au changement climatique. Ça permet aussi de façon individuelle de mieux de prédire plus efficacement le transport. Donc, vraiment, quand vous attendez, par exemple, votre autobus ou votre métro, quand vous pouvez l'attendre et à quel endroit exactement. Ça permet aussi d'optimiser, là j'ai le mot en anglais, le flow du trafic routier, à la fois des pédestres et des automobiles. Donc, de mieux estimer le trafic sur les routes, d'aider à mieux contrôler les flux de circulation, par exemple. Donc, moins de pertes d'énergie sur le réseau routier. À nouveau, comme vous savez, le transport routier aussi a une incidence sur les changements climatiques. Donc, c'est des façons très concrètes par lesquelles les villes peuvent utiliser l'IA dans ce contexte-là.
À quel point est-ce que ces technologies-là sont avancées? Parce que, bon, la prédiction, par exemple, des transports en commun, ça fait longtemps qu'on voit ces applications-là plus concrètes. Là. Le train va arriver dans 30 secondes, ce genre de choses-là. J'ai l'impression qu'il y a d'autres usages de l'intelligence artificielle qui sont beaucoup plus précaires. Je pense à l'énergie, bon, il y en a probablement d'autres, les infrastructures aussi. J'imagine que c'est un développement qui est à géométrie variable. Donc, on n'est pas rendu au même stade de développement partout. Là.
Non, exactement, en fait. Disons qu'il y a deux grands champs de développement que Benjamin a mentionné d'ailleurs. Là, c'est d'une part l'optimisation des systèmes présents. Comment optimiser, en fait, justement, la question du transport, de l'énergie et la question de la prédiction. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut prédire à l'avance l'usage, l'utilisation, la demande, mais aussi l'offre. En fait, comment est-ce qu'on peut mieux prédire l'offre en énergie, sa répartition. Donc, c'est un peu les deux grands champs qui sont actuellement en développement dans le contexte urbain. Et comme tu dis, en fait, il y a vraiment une géométrie variable dans ces deux champs-là. C'est-à-dire que chaque domaine d'application connaît des poussées qui sont fulgurantes, mais plus ou moins grande selon le secteur, la ville, le pays, le contexte. Parce que, évidemment, pour pouvoir mettre en place cette technologie qui est l'intelligence artificielle, il nous faut des ressources, des infrastructures, mais surtout des ressources humaines. En fait, il faut des gens, il faut des connaissances, il faut des personnes qui savent comment utiliser cette technologie-là, comment l'encadrer. Il faut aussi des données. Donc, est-ce que les données sont déjà présentes dans le système ou est-ce qu'il faut d'abord les créer? C'est pour ça qu'il y a des villes, on va dire justement comme Singapour ou comme Séoul, qui sont peut-être très avancées dans certains chantiers de l'intelligence artificielle. Montréal, dans d'autres, par exemple, tout ce qui est réglementation, encadrement, réflexion critique sur les risques de l'intelligence artificielle. Je pense qu'à Montréal, on est vraiment un très bon exemple à l'échelle mondiale. Mais il faut justement que toutes ces connaissances-là et ces ressources-là viennent se mettre ensemble pour qu'il y ait une véritable innovation qui se fasse.
Bon, je pense que tu mets le doigt sur le cœur du problème, c'est-à-dire, c'est bien beau toutes ces utilisations possibles de l'intelligence artificielle, mais votre guide, il sert à outiller des gens, à outiller les décideurs. Est-ce que, de manière générale, vous avez le sentiment que les maires puis les administrations municipales sont suffisamment bien outillées pour implanter ces technologies-là, comme vous le décrivez dans votre rapport?
Alors, encore là, ça dépend beaucoup des contextes. Il y a des contextes géographiques, culturels, où il y a déjà un savoir-faire très présent, en fait, dans des villes comme, évidemment, les grandes villes, ce sont souvent celles qui ont un peu prévu le coup, qui se sont équipées de façon très précoce, en fait. Donc, on parle de, justement, Montréal, New York, Londres, Séoul.
On fait partie, parenthèse, on y reviendra sur la question des décideurs, mais Montréal fait vraiment partie des villes qui sont à l'avant-garde de l'intelligence artificielle. Parce que je regarde l'état de nos routes ou l'état de nos transports en commun, des fois, je me permets d'être critique. Est-ce qu'on est si bon que ça?
Ben alors, c'est sûr qu'avec des lieux comme le Milan notamment, puis je vais laisser Benjamin peut-être nous parler plus du Milan, mais c'est sûr qu'avec des lieux comme le Milan et tout l'écosystème en fait qui se développe autour, Montréal est en très, très bonne position dans le développement des technologies, dans l'application de ces technologies-là en milieu urbain. Montréal a quand même fait des bons coups, okay, je pense, à l'échelle canadienne, à l'échelle nord-américaine. On n'est pas les derniers, on n'est pas les premiers. Il y a des choses qui peuvent se faire différemment, mais en gros, je pense qu'on est assez bien situé.
Benjamin, est-ce que tu partages cet avis-là?
Ben, non seulement je le partage, mais en fait, peut-être pour renchérir, là, il y a des données qui sont sorties. Je pense que c'est l'année précédente, c'est un index qui s'appelle Tertoise, qui mesurait en fait le niveau de développement des écosystèmes d'intelligence artificielle dans le monde avec évidemment une panoplie de données, la recherche, la commercialisation, etc. C'était assez fascinant de voir que le Canada se classait quatrième donc dans le monde, derrière seulement les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni. Donc déjà, je pense qu'il y a quelque chose dont on peut être fier, mais ce qui a été particulier, c'est que la force de l'écosystème québécois et évidemment montréalais en particulier est tellement distinctif que cet index-là a mesuré le Québec. Et là, sans, il y a vraiment aucun... Il n'y a vraiment aucun a priori politique dans ce que je vais dire, là, mais à mesurer l'écosystème québécois comme s'il était à part là, de l'écosystème okay canadien. Puis l'écosystème québécois, lui seul, se classait septième au monde.
Ah oui!
Ce qui est incroyable, si vous comparez à peu près avec toutes les variables auxquelles vous pourriez penser, comme le niveau d'investissement, la population, etc. Et ce qui est l'une des choses qui fait la distinction de l'écosystème québécois, en fait, et montréalais, je pense qu'il y a deux choses là, dont on peut extraordinairement être fier. Comme Chine le disait, d'une part, il y a vraiment une signature autour de l'IA responsable, donc de l'encadrement de l'éthique de l'intelligence artificielle. Et d'autre part, on a une force de recherche en intelligence artificielle qui est vraiment l'une des plus fortes au monde, qui est l'idée, bien sûr, par le professeur Yoshua Benjo, qui est le fondateur de Mila, mais qui vient... avec une panoplie d'autres professeurs extraordinaires qui ont de la visibilité à l'international.
Oui, il y a une aura autour de... Là. C'est ça, il y a une aura autour de l'intelligence artificielle à Montréal. Ça, je pense que c'est indéniable. Mais pour donc...
Mais ça se traduit en chiffres.
Oui, c'est, ben ça c'est très bien. cela dit donc, si je reviens à la question initiale, puis on ferme la parenthèse sur Montréal, est-ce que les décideurs sont équipés pour prendre les meilleures décisions quant à l'intelligence artificielle? Je suis quand même curieux de vous entendre là-dessus. Ça reste un domaine qui est à la fois nouveau et qui est extrêmement compliqué, disons-le comme ça. Est-ce qu'on est outillé?
Ça, c'est une question un peu compliquée, hein, parce que je pense qu'il y a plusieurs choses à prendre en considération dans ce domaine-là. C'est sûr qu'il y a une écoute. Une écoute indéniable, en fait, des décideurs, des politiques, là, que ce soit à l'échelle municipale, provinciale, nationale. Il y a un savoir-faire, il y a des connaissances ici. Après ça, la question, c'est comment est-ce que ces connaissances-là sont transmises, traduites dans un contexte comme celui de la ville de Montréal, qui fait face aussi à d'autres types de défis, en fait, des défis financiers, des défis organisationnels, de développement urbain, d'étalement. C'est peut-être là où il y a certaines faiblesses, c'est-à-dire que malheureusement, on a tellement de priorités d'un point de vue de l'aménagement, de l'urbanisme à Montréal, que la question de l'intelligence artificielle, qui pourrait en partie résoudre ces problèmes-là, ben, peut-être qu'elle est un peu éclipsée par d'autres priorités qu'on essaie de mettre de l'avant. Donc, il y a une volonté politique claire, je pense, de mettre en place les meilleurs processus possibles, mais ça se fait évidemment en équilibre avec tous les autres agendas que la ville a à gérer. Il y en a vraiment beaucoup.
Est-ce que, Benjamin, c'est ce que tu observes aussi ailleurs dans le monde? Est-ce que cette tendance-là des décideurs à, bon, oui, considérer l'IA, mais à considérer toutes sortes d'autres facteurs, faire en sorte qu'on prend toujours les meilleures décisions?
Ben, j'ai pas une baguette magique là, pour voir toutes les villes, mais d'une part, oui, je suis d'accord. D'autre part, il y a quelque chose de rassurant là, à savoir que nos décideurs ne font pas que penser à l'intelligence artificielle.
Ah, bien sûr.
Ils font bien se dédier à d'autres questions. Ce qui je pense, là, une chose vraiment intéressante à se dire, à deux choses à ajouter. La première, c'est qu'il y a une différence de contexte. Donc, il y a des pays, là, il y a quand même une fracture là, entre le nord global et le sud global, mais il y a des pays qui ont quand même des pays et des villes qui ont des écosystèmes qui leur permettent d'être un peu plus ambitieux. Mais l'autre chose, c'est que les villes ont quand même des petits départements d'un point de vue technique là, pour se doter de ces outils-là. Donc, est-ce que la ville de Montréal et comme plein d'autres villes font des efforts significatifs en IA? Oui. Est-ce que je pense qu'on exploite le plein potentiel de l'intelligence artificielle? Probablement pas. Puis je pense que quelque chose à quoi qui est très ennuyeux, mais à quoi il faut donner beaucoup d'attention, c'est ce qu'on appelle les politiques d'approvisionnement. Donc, en anglais, les procurement. Mm-hmm. Parce que comme les villes ont vraiment des petits départements, la plupart des administrations publiques et municipales vont devoir en fait avoir recours aux entreprises, aux privés, pour développer ces systèmes-là. Donc, je pense qu'une grande partie de tout ce qui est l'éthique de l'IA, la qualité des systèmes d'IA qu'on va pouvoir contrôler, notamment à travers les politiques d'approvisionnement des villes. Donc, peut-être que la ville de Montréal développera pas tous ces systèmes d'IA. Peut-être qu'elle peut se donner des outils d'aller chercher les bons systèmes d'intelligence artificielle autrement.
Je veux vous entendre sur la question des biais, parce que ça fait partie intégrante du livre blanc. Quand on lit, on comprend que, bon, d'un côté, oui, il y a tous ces avantages-là potentiels. On a parlé d'énergie, on aurait pu parler de toutes sortes d'autres secteurs comme la gestion de l'eau, les soins de santé, la planification de l'urbanisme aussi dans une ville. L'intelligence artificielle peut aider à faire tout ça. À condition qu'on mette les bonnes données dans la machine, finalement, si j'essaie de résumer, les risques de dérapage sont grands. Est-ce que ça vous inquiète?
Ben alors, c'est sûr que c'est inquiétant. Juste pour commenter sur ce que tu viens de dire, je pense que c'est pas juste mettre les bonnes données dans la machine, mais justement, cette attention-là, cette précaution-là, on doit la prendre dans tout le cycle de développement, de maintien et d'élimination même du système d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que dans sa conception, dans la conception des objectifs même qu'on donne à l'IA, donc quand on construit une IA, il faut d'abord définir des objectifs qui sont définis par des humains. Il faut qu'il y ait, idéalement, en fait, une grande représentativité de la société pour s'assurer que ces objectifs-là soient faits de façon inclusive.
Mmh. Quand on parle d'objectifs, ça peut être quoi un bon ou un mauvais objectif, juste pour comprendre?
Ben, c'est ça qui est un peu particulier avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut développer que des bons objectifs, mais le résultat ne sera pas nécessairement sans risque et sans biais, en fait. Mm-hmm. Parce que le point de vue qu'on donne à un objectif, par exemple, on veut réduire la criminalité à Montréal. Puis là, okay, on développe un algorithme d'intelligence artificielle, puis ça a l'air bien de réduire la criminalité. Tout le monde veut réduire la criminalité. Sauf que quand ça vient à définir qu'est-ce que ça veut dire la criminalité, quand ça vient à définir quelles données on veut utiliser pour comprendre comment évolue la criminalité, comment on peut la prévenir, puis il y a des travaux qui sont là-dessus, malheureusement, c'est qu'il faut pouvoir donner une diversité de points de vue, en fait, sur quels sont les processus sociaux, économiques, culturels qui sont sous-jacents à la criminalité.
Vous écrivez notamment dans le rapport qu'un des risques, c'est le biais racial.
Il y a le biais racial, il y a le biais sur le revenu, la situation socio-économique, il y a le biais sur le parcours migratoire de l'individu, sur la langue qu'il parle, sur la religion qu'il a. Il y a plein de biais en fait qui peuvent apparaître dans le processus de conception, donc depuis l'identification des objectifs jusqu'à la mise en place de l'intelligence artificielle. Et il y a plusieurs étapes où il faut constamment être très précautionneux, en fait. Mais aussi, une fois qu'on met cette intelligence artificielle hors ligne parce qu'on le remplace par un système plus performant, ben, quelles sont les conséquences de ça? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de biais-là qui apparaît aussi? Mm-hmm. Donc, il faut avoir cette attention-là constamment, en fait, quand on fait affaire avec de l'intelligence artificielle.
Benjamin, de ton côté, qu'est-ce qui t'inquiète le plus dans le développement de ces technologies-là, dans le contexte spécifique des villes, là, on s'entend, mais le plus gros risque ou de biais qui nous guette, c'est quoi?
Mais en fait, je suis tout à fait d'accord avec les risques que Chine liste. Puis je pense qu'il liste la plupart des risques les plus significatifs. Évidemment, dans le contexte européen, on peut penser que ça pourrait venir, par exemple, à de l'exclusion de soit de populations défavorisées, racisées, etc. Là, on peut penser de plein de façons dans l'utilisation du transport, dans les services publics, etc. Peut-être la perspective que je peux ajouter, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de façon concrète pour lutter contre ces biais-là. Et je suis pas en train de suggérer qu'on peut tous les éliminer. Là, de la même façon que les administrations municipales n'y arrivent pas non plus. Mais on peut être très, très rigoureux dans la création des processus autour des projets d'intelligence artificielle. Donc, vraiment s'assurer que l'inclusion... c'est pas une pensée cosmétique, là, mais que c'est vraiment quelque chose de très intégré dans le projet. C'est la représentation, donc, de s'assurer qu'on a des gens diversifiés autour du projet, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est des approches délibératives, par exemple, c'est de s'assurer qu'on a des experts du domaine, des experts du terrain, qu'on consulte, qu'on monitore aussi. Donc, une fois que c'est une chose de construire le bon système, une fois qu'il est déployé, comment est-ce qu'on mesure le niveau d'efficacité, puis comment est-ce qu'on intègre la question des biais dans cette mesure-là. Donc, il y a quand même des choses là, qu'on peut faire quand on construit des systèmes, qu'on construit et qu'on déploie des systèmes d'intelligence artificielle pour s'assurer qu'ils soient non discriminatoires.
J'aimerais ça qu'on termine cette conversation sur, parce que bon, ça reste effectivement une question très complexe, mais qui peut, faut commencer quelque part. Il faut commencer avec des applications concrètes, facilement, bon, qui peuvent facilement être mises en place dans le nord comme dans le sud. Il n'y a pas de silver bullet, mais s'il y a une application qui vous apparaît plus critique de l'intelligence artificielle pour des villes plus durables, vous misez sur quoi? Par où on commence, finalement?
Alors,
à choisir.
Une question difficile. Alors, c'est sûr que la question de l'énergie, c'est vraiment primordial actuellement, surtout en lien avec les changements climatiques. Je pense que la question de l'optimisation, la prédiction de la consommation et la production d'énergie, c'est quelque chose qui peut vraiment nous aider à mieux gérer notre production et consommation d'énergie et donc de la réduire si possible. Ça pour justement réduire notre empreinte sur l'environnement. Mais encore là, il faut faire attention parce que ben, on peut définir des objectifs qui, de prime abord, ont l'air tout à fait vertueux, mais qui au long terme peuvent avoir des effets, des conséquences inégales sur différentes personnes ou sur différents milieux. Et c'est là aussi où il faut faire attention en fait parce que une technologie doit vraiment être conçue par et pour les gens qui en sont les utilisateurs. C'est-à-dire qu'il faut pas, il faut faire attention à ne pas essayer d'importer, d'exporter de façon trop hâtive des technologies. Il faut vraiment les développer en ayant en tête les personnes vraiment qui vont être les premières personnes touchées par cette technologie-là.
Donc, il faut recommencer à toutes les fois, finalement. On ne peut pas prendre le logiciel ou en tout cas l'application concrète de Montréal puis l'implanter à Singapour puis ça fonctionne.
Non, il faut, on peut apprendre de ce qui était fait ailleurs. On peut collaborer. C'est-à-dire,
surtout dans le contexte de l'énergie, les contextes énergétiques sont aussi tellement différents d'un endroit à l'autre.
Exactement.
Mais ça vaut aussi, à ce que je comprends, pour le système policier.
Le système policier, pour la gestion de la construction, l'optimisation des systèmes de transport, la gestion de l'eau.
Très intéressant.
Tout ça doit être fait sur mesure pour l'endroit où ça va être déployé.
Benjamin, le mot de la fin? On déploie ça où? On déploie ça comment? Puis qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qu'on fait en premier à choisir? C'est tes maires, là, demain.
Je suis maire. Alors, je dirais, comme Chine en énergie puis en mobilité, donc transport public, sur l'énergie, il y a des choses vraiment fascinantes. Là, on n'en a pas parlé tantôt, mais par exemple, d'utiliser des systèmes d'IA pour diminuer la consommation énergétique des immeubles. Là, on parle de diminutions qui peuvent aller jusqu'à 30-40% de la consommation d'énergie. Là, c'est immense.
Il y a Brainbox AI qui fait ça notamment à Montréal, là, qui est basé ici, puis qui calcule dans un immeuble la quantité d'énergie consommée puis qui la réduit à la source.
Exact, en partenariat avec l'INA d'ailleurs.
Ah ouais, ben c'est
mais alors ça, c'est définitivement, toute la question de l'énergie et de la mobilité sont définitivement des thématiques sur lesquelles on a des choses prometteuses. Celui sur lequel je vous dirais que j'aimerais voir les villes ne pas se lancer trop rapidement, c'est l'utilisation de l'IA en matière de sécurité publique, puis particulièrement en matière policière. Alors, ce sont des endroits où il y a vraiment des conséquences significatives sur la vie des gens et où les outils qu'on a développés jusqu'à maintenant ont démontré être relativement biaisés.
Ouais.
Donc, je pense qu'il y a des endroits sur lesquels on pourrait se lancer avec beaucoup plus d'appétit que d'autres.
Puis la dernière question, c'est puis allez-vous utiliser ChatGPT pour écrire votre prochain rapport?
Je pense pas qu'on va le faire, pas avec ChatGPT. Par contre, j'ai plusieurs collègues, notamment dans les départements de littérature, qui en fait se questionnent sur vraiment, ben, pourquoi pas en fait, pourquoi on peut pas utiliser ChatGPT dans certains contextes, quand justement c'est un outil tout à fait valable, qui a un grand potentiel d'utilisation. Après ça, pour un rapport comme celui-là, je pense que c'est très difficile parce qu'on était parmi les premiers rapports, en fait, à traiter de la question. Donc, du coup, l'intelligence artificielle, elle n'a pas été entraînée sur des données de rapports précédents.
Benjamin, tu nous parlais depuis Paris. Merci d'avoir été avec nous. Tu es, je le rappelle, directeur exécutif du département IA pour l'humanité au MILA.
Merci de votre invitation.
Ça fait plaisir. Et puis, Chin Koseki, tu es professeur à l'Université de Montréal. Tu te spécialises, j'adore ça, la confluence entre l'urbanisme et et les sciences computationnelles, c'est fascinant. Merci à toi aussi de te déplacer en studio. Et puis, ben, le rapport que vous avez co-écrit avec vos collègues est disponible dans son intégralité en ligne. Ça s'appelle « AI in Cities, Risks, Applications and Governance ». À bientôt.
Merci.
Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Francis Généreux.
Les plus récents chiffres sur l'emploi aux États-Unis en ont surpris plusieurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Au mois de janvier, c'est pas moins de 517 000 nouveaux emplois qui ont été créés au sud de la frontière. C'est beaucoup plus qu'attendu. Bonjour, Francis Généreux.
Bonjour.
C'est encourageant quand même. On peut se demander si les Américains sont peut-être en train de réussir à déjouer la récession.
Oui, tout à fait, parce que normalement, le principal signe qui nous dit qu'on est en récession ou pas, mais c'est généralement une baisse dans l'emploi. C'est vraiment des mises à pied. Et ça, on le voit pas. Et c'est quand même surprenant, le chiffre de 510 000. C'est, comme tu disais, ça a surpris les attentes. C'est presque trois fois plus qu'est-ce qui était attendu. Et ça va un petit peu à l'encontre des nouvelles qu'on entend dans certains secteurs, notamment dans les technologies, où est-ce qu'il y a des annonces de mise à pied.
Ouais.
Donc, vraiment, c'est un gros chiffre et qui fait en sorte que le ralentissement qu'on attend en réponse aux hausses de taux, à l'inflation qui était forte l'année passée avec d'autres facteurs de faiblesse, mais la récession qu'on attend pour 2023, bien, elle est peut-être en train d'être un petit peu plus tard que prévu si elle arrive.
Bien, c'est ça, parce que ultimement, la raison pour laquelle les taux augmentent, c'est parce qu'on veut pouvoir contrôler l'inflation. C'est comme si un peu la Réserve fédérale américaine voulait provoquer une récession, puis ça ne se produit pas. À un certain point, il va falloir que la croissance des salaires cesse pour tenter de contrôler l'inflation. Est-ce qu'on va finir par y arriver, finalement, Francis?
Heureusement, on le voit déjà un petit peu. Le sommet de la croissance des salaires qu'on a connu au courant de l'année, c'était à peu près une croissance annuelle de 5,9%. Puis là, avec les chiffres qui ont été publiés pour janvier, on tombe à 4,4%. C'est déjà mieux, mais ça reste encore élevé. Et ça reste encore élevé parce qu'on sait que l'inflation qui provient est surtout forte dans les services. Et une des raisons pourquoi que l'inflation est forte dans les services, c'est justement les salaires qui sont en hausse.
Ouais.
Alors que toute l'inflation du côté des biens qui nous provenait des problèmes d'approvisionnement, de la guerre, de la COVID et tout ça, ça, c'est en train de se calmer. Mais il y a encore beaucoup d'inflation. Puis justement, la Réserve fédérale nous disait qu'ils ont encore ça à l'œil. Ça reste quelque chose à arriver. Comme tu dis, il va falloir avoir un ralentissement du marché du travail qui amène un ralentissement des salaires.
Donc, ce que je comprends, c'est qu'ils ne sont peut-être pas en train de déjouer la récession, mais ils sont en train de la remettre à plus tard.
Oui, parce que en plus que s'il n'y a pas vraiment de ralentissement du marché du travail, si l'inflation reste quand même un peu plus résiliente en cours d'année, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la Fed qui a amorcé quand même un ralentissement du rythme de ses hausses de taux. Il faut se rappeler, on est à coup de 75 au courant de l'année 2022. On a fini à 50 points de hausse en décembre. La dernière réunion, c'était une hausse de 25 points. Donc, on se dit, c'était le début de la fin pour les hausses de taux. Mais si le marché du travail lâche pas, si les salaires restent élevés, si l'inflation reste encore un petit peu trop élevée, notamment du côté des services, mais il va falloir pousser plus loin les hausses de taux.
Mm-hmm.
Et si on pousse plus loin les hausses de taux, mais ça va faire mal juste plus tard et la récession va probablement survenir quand même, mais plus tardivement, et il y a un risque qu'elle fasse plus mal aussi rendue là.
Qu'elle soit plus forte. Un dernier mot, Francis, est-ce que tu t'attends à ce qu'on voit la même chose ici, c'est-à-dire est-ce que cette poursuite de la force du marché de l'emploi pourrait également être visible chez nous?
Mais on avait déjà un petit peu le chiffre en décembre au Canada, où est-ce qu'on a eu des chiffres, une croissance de l'emploi mensuelle de 104 000, qui était revisée depuis 69 000 en décembre. C'est quand même un chiffre énorme là, qui se compare avec les 500 000 US. Donc, on le voit encore. Sérieusement, c'est un drôle de cycle économique. On voit des ralentissements, mais avec un marché du travail tellement serré encore que c'est vraiment une situation assez extraordinaire.
On vit dans une drôle d'époque. Merci, Francis, de tes explications. C'est toujours très clair et c'est toujours très apprécié.
Merci.
Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Pour votre info est un balado indépendant présenté par Desjardins, notre recherchiste est Philippine de Tinguy. Nos épisodes sont enregistrés au studio Edgar à Montréal. Notre technicien cette semaine est Steve Cordeau. Tous nos épisodes sont disponibles sur C23, la plateforme de balado de Cogeco Media, ainsi que sur Spotify, Apple Podcasts et partout où vous retrouvez vos balados. Je m'appelle Laurent Therrien. Merci d'avoir été avec nous cette semaine. On se reparle la semaine prochaine.